RFI.
À l'écoute de RFI, 19h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Grand Journal du Soir sur RFI. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. La COP29 et les mots rassurants de l'émissaire américain à la conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan. Par ailleurs, dans ce journal, qui seront les hommes du président aux États-Unis 6 jours après l'élection de Donald Trump, les premiers noms émergent. Nous sommes à Washington. Haïti change de premier ministre après 5 mois aux commandes du pays. Gary Conille est remercié. Le nom de son successeur sera officialisé dans quelques heures. Sur le continent africain, à l'île Maurice, en attendant les résultats officiels, le premier ministre sortant annonce déjà avoir perdu les élections législatives. Et puis l'actualité en France, 2 anniversaires en un. Emmanuel Macron et Keir Starmer ont commémoré aujourd'hui à Paris le 106e anniversaire de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Le président français et le Premier ministre britannique ont aussi célébré le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni.
Et puis dans 15 minutes, notre session d'info, on appellera le journal La Croix qui s'intéresse au risque de guerre civile au Liban, conséquence possible du conflit avec Israël.
Au premier jour de cette réunion planétaire sur le climat en Azerbaïdjan, l'émissaire américain John Podesta prend la parole. Objectif, rassurer le monde après l'élection de Donald Trump, climato-sceptique assumé. Donald Trump souhaite se désengager de l'accord de Paris et peut-être même de l'ensemble des négociations climatiques. L'envoyé spécial de Joe Biden à Bakou l'assure, l'action climatique ne se résume pas à l'élection présidentielle.
Last week's outcome in the United States is obviously bitterly disappointing.
Le résultat de l'élection de la semaine dernière aux États-Unis est d'autant plus amer et décevant que l'on doit à l'administration Biden une ambition sans précédent dans le combat contre le dérèglement climatique, notamment avec l'Inflation Reduction Act, l'investissement le plus important jamais réalisé pour le climat et les énergies propres. Il est clair que la prochaine administration va tenter de faire marche arrière et inverser la plupart de ses avancées, et j'ai bien conscience de la déception que cela cause aux pays engagés pour le climat, mais c'est ainsi. En janvier prochain, nous investirons un président dont la relation au changement climatique se résume aux mots canular et énergie fossile. Les États-Unis sont une démocratie et dans une démocratie, la volonté du peuple prévaut. Mais cela n'est pas la fin du combat pour autant et mes équipes à Washington travaillent à solidifier les investissements durables avant la passation. Et on va continuer à avancer grâce aux États et aux villes engagées, à nos inventeurs, nos entreprises et nos citoyens.
On the backs of our climate committed states and cities, our innovators, our companies and our citizens.
Cette conférence internationale sur le climat débute aussi par un appel à la coopération mondiale, alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort, elle est à la hauteur du moment, a lancé le patron de l'ONU Climat, Simon Steele, à l'occasion de cette conférence qui va durer jusqu'au 22 novembre prochain.
Allez, les États-Unis, à présent, il est 13h03 à Washington. Entre son élection, évidemment, la semaine dernière, et puis son investiture le 20 janvier prochain, Donald Trump continue, Adrien, de mettre en place son équipe.
Et nous sommes pour cela avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume. Guillaume Nodin à Washington, que nous devrions avoir dans quelques instants à l'occasion de plusieurs nominations à des postes importants qui ont eu lieu ces dernières heures. Alors, avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le nouveau chef de la diplomatie israélienne a été interrogé aujourd'hui sur la perspective d'une relance des accords dits d'Abraham et de la possibilité de normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite en échange de la création d'un État palestinien. En un mot, non, a répondu M. Saar. Un État palestinien sera un État Hamas, a-t-il ajouté. Je ne pense pas que cette question soit réaliste aujourd'hui et nous devons être réalistes. Pour rappel, les accords d'Abraham, promus par Donald Trump lors de son premier mandat, avaient permis notamment la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, à savoir Bahreïn, les États-Unis et le Maroc. Nous rejoignons à présent à Washington Guillaume Nodin. Et Guillaume, pour nous parler des hommes du président, on en sait désormais davantage sur les prochains noms qui vont désormais entourer le président élu des États-Unis, Guillaume.
Oui, Donald Trump a choisi son ambassadrice aux Nations Unies. Ce sera la représentante Elise Stefanik. C'est élue du nord de l'État de New York. C'était fait particulièrement remarquer en décembre dernier au cours d'une audition publique en poussant dans leur retranchement plusieurs présidentes d'universités qui refusaient de condamner clairement les actes antisémites sur leur campus. L'antisémitisme, elle l'a aussi reproché aux Nations Unies sur plusieurs votes depuis le début de la guerre à Gaza. À ce sujet, elle avait vivement critiqué l'administration Biden pour sa décision de suspendre temporairement les livraisons de certaines armes à Israël. Donald Trump a aussi choisi son responsable de toutes les questions liées à la frontière. Tom Homan est l'ancien patron de l'ICE, le service chargé d'appliquer les lois en matière de frontières et d'immigration. C'est lui notamment qui est la tête pensante de la politique des séparations des familles de migrants. Et il explique ce lundi que les criminels seront les premiers visés par l'opération d'expulsion massive que Donald Trump veut mettre en place. Mais il ajoute que des arrestations de sans-papiers sur leur lieu de travail seront possibles. Enfin, le nom de Stephen Miller circule pour le poste d'adjoint à la chef de cabinet. Il avait dit lors du rassemblement du Madison Square Garden en fin de campagne que l'Amérique, c'est pour les Américains et seulement pour les Américains.
Guillaume Nodin à Washington pour RFI.
Et puis dans la guerre au Liban, voilà ce qu'affirme aujourd'hui le Hezbollah. L'armée israélienne n'a réussi à occuper aucun village du sud du Liban.
Plus de 40 jours après le début des opérations terrestres israéliennes en territoire libanais, le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, avait donné rendez-vous aux journalistes pour donner son récit de la guerre. Paul Ralifé est à Beyrouth.
Plusieurs dizaines de journalistes libanais et étrangers ont répondu à l'invitation du porte-parole du Hezbollah à une conférence de presse ce lundi en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth, en partie détruite par les raids israéliens des dernières semaines. Mohamed Afif a assuré que l'armée israélienne ne pourra pas gagner cette guerre et ramener les habitants du nord dans leur maison grâce à sa supériorité aérienne ou en détruisant les villages et en tuant les civils au Liban, fin de citation. Pour être victorieux, Israël doit se battre sur le terrain où l'attendent plus de 100 000 combattants du Hezbollah qui l'ont empêché, selon lui, d'occuper durablement un seul village dans le sud du Liban après 45 jours de combat. Réagissant aux informations de presse sur un accord proche qui mettrait fin à la guerre, le porte-parole du Hezbollah a déclaré que les autorités libanaises n'ont encore officiellement reçu aucune proposition spécifique. Il a cependant confirmé que des contacts politiques et diplomatiques ont lieu à Washington, Moscou et Téhéran au sujet des moyens de stopper la guerre en cours. Indépendamment des démarches diplomatiques, le Hezbollah s'est réorganisé et s'est préparé à tous les niveaux pour une longue guerre, a conclu Mohamed Afif. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
19h, bientôt 8 minutes ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange et on en vient au dossier de la rédaction. Adrien, et gros plan ce soir sur Haïti.
Le premier ministre haïtien Garry Conille débarqué après 5 petits mois à la tête du gouvernement. Il y avait déjà la crise sécuritaire, l'emprise des gangs, les déplacements de population et voici un nouveau chapitre d'instabilité institutionnelle. Vincent Souriau, bonsoir.
Bonsoir.
Car c'est un changement de visage qui se fait dans la douleur à la tête du gouvernement haïtien.
Oui, parce que Garry Conille parle d'abus de pouvoir et de forfaiture et il estime que sa mise à l'écart a été actée en dehors de tout cadre légal et constitutionnel. Qui vise-t-il ? Il vise le CPT, le Conseil présidentiel de transition. C'est cet organe qui a décidé de son éviction. Garry Conille écarté, nomination d'un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Alix Didier Fils-Aimé et il doit être intronisé dès ce soir, 21h heure de Paris.
On se dirige donc vers une situation plutôt ubuesque avec deux Premiers ministres en concurrence à la tête d'Haïti.
Non, parce que d'après son entourage, Garry Conille ne va pas s'entêter, il ne va pas s'accrocher au pouvoir, mais il ne pouvait pas se faire éjecter, nous dit-on, sans dénoncer l'opposition systématique de ce Conseil présidentiel de transition. Ce Conseil, c'est 9 membres censés représenter l'ensemble du paysage politique haïtien qui font office de président en quelque sorte parce qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle en Haïti depuis 2016. Or, le conflit était ouvert depuis des semaines. Qui a le pouvoir dans ce système bicéphale ? Le CPT réclamait un remaniement que le Premier ministre refusait. Garry Conille de son côté réclamait la mise en place d'organes de contrôle indépendants pour juger l'action du gouvernement. Ça n'a jamais été fait non plus. Blocage total des mécanismes politiques.
Et au milieu de tout ça, Vincent Souriau, comme comme toujours, des Haïtiens désemparés.
Et oui, parce que le bilan de Gary Conny est très maigre. 5 mois, pas grand-chose de concret, y compris dans la lutte contre les gangs, et une image de la classe politique toujours plus ternie si l'on écoute Marie-Rosie Auguste du Sénat du Réseau de défense des droits humains.
Gary Conny ne faisait rien. Mais nous dénonçons aussi le fait que 3 parmi les membres du Conseil présidentiel de transition soient des inculpés, puisqu'il y a une instruction ouverte à leur encontre pour corruption. Ils ne font rien non plus à la tête du pays. La situation en Haïti n'a pas bougé depuis leur intronisation. Mais aujourd'hui, ils ont perdu le peu de confiance qui était placée en eux par la population avec ce scandale de corruption qui en fait éclabousse toute la structure.
On verra si le nouveau gouvernement peut redresser à la barre. Adrien, premier conseil des ministres prévu après-demain.
Vincent Souriau pour ce dossier de la rédaction.
Et à l'île Maurice, à présent, ces mots, la population a choisi une autre équipe, je lui souhaite bonne chance.
Ce sont les mots du premier ministre mauricien qui reconnaît avoir perdu les élections législatives. Pravin Kumar concède sa défaite. Tous les bulletins ne sont pas encore dépouillé. Les résultats partiels annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Navin Ramgoolam, le chef du Parti travailliste, âgé de 77 ans et ancien Premier ministre.
Des typhons à répétition aux Philippines.
Des milliers de personnes ont été mises à l'abri ces dernières heures. Des ports fermés, des routes impraticables, vent violent et forte pluie. Le pays est touché par un quatrième typhon en moins d'un mois.
En Europe, le temps du débat politique viendra.
Cette fois-ci, ce sont les mots du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, 2 jours après une manifestation à Valence. Environ 130 000 personnes se sont réunies pour dénoncer la mauvaise gestion par les autorités des inondations meurtrières du 29 octobre. Inondations qui ont causé, je vous le rappelle, la mort d'au moins 222 personnes. Pedro Sanchez tempère après cette tragédie. Ce que nous devons d'abord faire, c'est reconstruire et relancer l'activité économique et sociale, a déclaré le chef du gouvernement espagnol. Dans l'actualité française, Emmanuel Macron a commémoré aujourd'hui le 106e anniversaire de l'armistice de 1918. Le président français, lors de cette traditionnelle cérémonie sous l'Arc de Triomphe, était accompagné du Premier ministre britannique, Keir Starmer. Un ravivage de la flamme placé sous le signe de l'amitié franco-britannique, mais aussi de l'Ukraine, puisque l'aide à Kiev est au menu de l'entretien entre les deux hommes ce soir à l'Élysée. Franck Alexandre.
Avec le retour de Donald Trump, britanniques et français font le même constat. L'Amérique ne sera plus un partenaire fiable pour aucun pays européen. Contrairement au nouveau président américain, Londres et Paris jugent essentiel de continuer à soutenir l'Ukraine pour protéger le continent européen dans son ensemble. L'Europe, qui depuis bientôt 3 ans est le premier pourvoyeur d'aide à l'Ukraine avec 118 milliards d'euros, tandis que les États-Unis ont fourni 85 milliards d'euros, précise l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Keir Starmer a déclaré à plusieurs reprises que l'engagement du Royaume-Uni, soit 3 milliards de livres par an, serait irréfutable, mais un retrait américain, qu'il soit financier ou militaire, sera difficile à compenser, disent les experts, notamment dans le domaine des armes de précision, les missiles tactiques. Il faut donc, dans l'urgence, échafauder des plans pour partager les coûts à la fois pour l'Ukraine et l'OTAN face à une Russie toujours plus agressive. La Grande-Bretagne et l'Union européenne devrait entamer très prochainement des négociations sur un pacte de sécurité post-Brexit.
Et juste avant de vous redonner la main, Romain Ozoui, de la musique avec la chanteuse Sarah Lenka, disque après disque. Cette chanteuse trace depuis une quinzaine d'années une voix à part dans le paysage musical français. Elle vient de sortir un nouvel album intitulé Isha. Isha signifie femme en hébreu. Ses chansons, toutes écrites en anglais, racontent son histoire familiale marquée par l'exil. Edmond Sadaka, écoutez ce disque pour nous.
Dancing in the dark, she heard her name.
Sarah Lenka rend hommage aux femmes depuis plusieurs années. Elle l'avait déjà fait en chantant Billie Holiday, puis en revisitant le répertoire d'une autre grande dame de la communauté afro-américaine, Bessie Smith. Pour ce nouvel album, la chanteuse, qui est d'origine juive algérienne, s'est replongée dans son histoire familiale, une histoire souvent effacée par l'exil. Chacun des morceaux du disque s'inspire de l'histoire de l'une de ses ancêtres au féminin, qu'elle vienne d'Algérie, d'Espagne ou d'Argentine. Sarah Lenka.
Plus je compose composait, plus je comprenais que chaque chanson allait être un voyage un peu à travers la vie d'une de ces femmes. C'était une femme qui avait beaucoup de courage et surtout, on a peu parlé d'elle après. Et je me suis dit, en fait, l'exil coupe la transmission qu'elles auraient pu nous donner.
You drive her crazy.
Sara Lenka, qui a fait ses premiers pas dans le métier en tant que chanteuse de jazz, s'éloigne de plus en plus de ce registre pour se diriger vers une folk très épurée. Sur cet album, la guitare, le mandol, les chœurs et les percussions retranscrivent les danses, les rythmes et les coutumes du passé.
La chanteuse Sara Lenka, album chroniqué ce soir par Edmond Sadakin. Ainsi se referme ce journal-là.
Et c'était très agréable comme sortie de journal. Merci beaucoup à Adrien Delgrange. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter cette chanteuse, Isha. Merci beaucoup, c'était le grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Allez, dans quelques minutes, nous évoquerons le Liban et les craintes avec les attaques israéliennes. Eh bien, les craintes, c'est qu'à terme, le Liban, à nouveau, bascule dans la guerre civile. Les divisions confessionnelles s'aggravent, note La Croix, le journal La Croix, dans un reportage à apparaître demain mardi. Nous appellerons la rédaction. Et puis, alors qu'évidemment, l'ouverture de la COP29 est sur toutes les lèvres aujourd'hui, eh bien, nous nous rendrons en Pologne. La Pologne, pays lourdement dépendant du charbon, qui constitue plus de la moitié de l'énergie qui est consommée dans le pays. Et les effets, vous le verrez, commencent à se faire ressentir sur la population. Mais pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Cédric d'Oliveira.
Bonsoir Romain.
Le football pour débuter, la trêve internationale. L'équipe de France prépare ses deux matchs de Ligue des Nations contre Israël et l'Italie.
Oui, avec beaucoup d'absents encore une fois. C'est souvent le cas à cette époque de la saison. Didier Deschamps, le sélectionneur, on le rappelle, qui s'est intentionnellement privé de son capitaine Kylian Mbappé, resté à Madrid. Mais le sélectionneur doit gérer aussi les blessures, celle de Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, qui est resté à Londres et qui est donc remplacé par Benjamin Pavard. Un des champions du monde en 2018, il n'était pas là. En tout cas, c'est son retour pour la première fois depuis l'Euro cet été en Allemagne. Et puis le Parisien Ousmane Dembélé, forfait lui aussi, il est blessé aux ischios jambiers, il n'est pas apte, et c'est le joueur du Bayern Munich Kingsley Coman qui a pris place dans le groupe. On rappelle que les Bleus affronteront Israël au Stade de France jeudi.
Voilà pour le foot, Cédric. Le tennis, dernier tournoi de la saison, ça se déroule en ce moment à Turin. C'est le dernier tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs du monde.
Et c'est le Masters, les 8 meilleurs sont réunis, répartis en 2 groupes de 4. Ce lundi, c'est le groupe baptisé John Newcombe qui était à l'honneur, et une surprise, Carlos Alcaraz a été battu en 2-7 par le Norvégien Casper Ruud, 6-1, 7-5. L'Espagnol, numéro 3 mondial, est passé complètement à côté de son match. Victoire logique donc pour Ruud, qui savourait après le duel entre les deux hommes.
Ce n'est qu'un match, mais c'est évidemment l'une de mes plus belles victoires de la saison, du fait du nom de l'adversaire, de son niveau, de son classement, etc. Je suis ravi, bien sûr. Carlos a déjà mieux joué que sur le match d'aujourd'hui, mais j'ai aussi su saisir ma chance. Et je n'avais pas fait le plein de confiance ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc c'est une belle victoire. J'espère m'appuyer dessus pour en obtenir d'autres ici à Turin.
Le Norvégien Casper Ruud, donc, je ne sais pas si je prononce bien, Romain.
Ruud, le débat est lancé.
Victorieux face à Carlos Alcaraz. Dans l'autre match de ce groupe, John Newcombe, l'Allemand Alexander Zverev affrontera le Russe Andrei Rublev. Ça démarre à 19h30, temps universel.
Allez, on termine, Cédric, avec du basket. La saison NBA bat son plein.
Oui, des nouvelles de Gershon Yabusele, qui fait son retour sur les parquets américains cette saison, après 5 ans passés en Europe. Et ça se passe plutôt bien pour l'ailier fort français, qui a battu son record de points la nuit dernière avec son équipe de Philadelphie. 20 points lors du succès des Sixers face à Charlotte, 107 à 105 après prolongation. Tout va bien donc pour Yabusele, qui a profité de sa performance aux Jeux Olympiques cet été. Je rappelle que l'équipe de France a été vice-championne olympique pour séduire donc à nouveau la NBA, une deuxième chance dont il profite pleinement, même s'il reste conscient qu'il lui reste du travail.
It's only 9 games, you know, so... Ça ne fait que 9 matchs, je pense qu'en fin de saison, il sera temps de faire le bilan, mais jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre, ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance d'entrer sur le parquet, de jouer, d'avoir des tirs, mais aussi de gagner quelques matchs. Ce sont des sensations que je n'ai pas vraiment eues durant mon passage à Boston. Là, j'ai vraiment le sentiment de jouer, d'être utile à mon équipe contre des adversaires difficiles. C'est ce que je recherchais, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais faire de mon mieux et tout donner.
Gershon, Yabusele et Philadelphie qui, avec cette deuxième victoire de la saison, sont seulement 13e de la conférence Est. 2 victoires en 9 matchs pour l'instant pour la franchise de Joel Embiid. Toujours suspendu, le leader c'est Cleveland. Et puis à l'Ouest, la conférence est dominée par les Warriors de Stephen Curry, Oklahoma City et les Suns de Phoenix.
Et on suit la NBA aussi sur
Mais je sais Romain que vous aimez bien la NBA.
Merci Cédric Cédric d'Oliveira.
Ça c'est plus compliqué qu'Asper Wood, hein, c'est vrai. Ouais.
C'était le journal des sports, 19h20 ici à Paris. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche semble avoir relégué au second plan le conflit au Proche-Orient, mais celui-ci se poursuit encore ce lundi. Les autorités libanaises annoncent la mort d'au moins 7 personnes dans une frappe israélienne sur une localité du sud, le Liban, dont le journal La Croix propose un grand angle. Bonsoir Thomas Hofnung.
Bonsoir.
Chef du service Monde du journal La Croix, votre envoyé spécial s'est intéressé au risque de division dans ce pays multiconfessionnel. On rappelle que plus d'un million de Libanais a fui les bombardements d'Israël. Est-ce qu'il y a, parmi les réfugiés qui ont été rencontrés, une unité ?
Non, c'est vrai qu'on sent que ça commence à tirer, passez-moi l'expression, entre au sein des communautés libanaises, et on peut le comprendre sous les coups de boutoir de l'armée israélienne, les bombardements incessants, les ordres d'évacuation, ou même maintenant plus d'ordres d'évacuation du tout. Et on sent que les gens sont à bout. Et notre envoyé spécial qui a circulé un peu dans le sud, à côté de Beyrouth et puis dans la plaine de la Beka, a rencontré des gens qui sont à bout et qui ont peur en fait. Et la peur, bien sûr, elle crée des tensions entre les uns et les autres, entre ces différentes communautés libanaises. Et bien sûr, la peur aussi, c'est que le conflit que le Liban a connu dans les années 70-80 jusqu'en 1990 puisse se réveiller encore une fois sous les coups de boutoir de l'armée israélienne.
Il y a une personne libanaise que votre envoyé spécial a rencontré et qui a dit finalement que le but d'Israël était de détruire le Hezbollah, pas de tuer la population, je cite. Est-ce que au Liban, tout le monde a un avis aussi clair ?
Non, bien sûr, c'est vrai que cette personne rencontrée par notre envoyé spécial dans un village du sud de Liban, en fait était sous le choc d'un bombardement de l'armée israélienne qui visait d'ailleurs un groupe de journalistes, de chefs de médias arabes qui étaient dans la région, dans la zone, dans un petit village de Russes qui jusqu'à présent avait échappé aux frappes. Et donc cette personne était sous le choc et sidérée, et puis en voulait à son voisin qui avait hébergé ce groupe de journalistes en disant « à cause de lui, on a failli tous y passer ». Donc on sent bien qu'il y a des dissensions entre les uns et les autres, et encore une fois, c'est la peur qui domine. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité entre les gens. C'est ça aussi qu'on note dans ce reportage.
Oui, il y a notamment ce qui est raconté, la réaction de la population après qu'un cimetière chrétien a été soufflé par une frappe dans la plaine de la Beka. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, c'est assez incroyable en fait cette histoire. C'est effectivement une frappe israélienne qui a soufflé, comme vous l'avez dit, un cimetière chrétien dans la ville de Rayak. Et en fait, notre envoyé spécial raconte, Noé Pignette, qu'il y a un caveau qui a été endommagé. Et la famille a pu compter sur l'aide d'autres familles pour déplacer les restes de ce proche dans un autre caveau. En quelque sorte, la famille voisine a prêté son caveau. Et puis aussi, ce qu'a noté aussi notre journaliste, c'est que les voisins musulmans sont venus aider dans ce cimetière chrétien pour déblayer les tombes, les dégâts qui ont été occasionnés par cette explosion. Donc, on voit, y compris jusque dans les cimetières, finalement, que les gens s'entraident et ça continue encore cette solidarité. Mais la question, c'est jusqu'à quand, bien sûr.
Ce genre d'initiative, effectivement, est source d'espoir. Mais alors, en quoi le Liban pourrait, à l'issue du conflit, à l'issue des attaques israéliennes, comme vous l'avez dit, tomber dans une guerre civile ? Quels sont les risques, exactement ?
C'est d'abord le conflit des années 80-90, c'est finalement encore assez frais, même s'il y a plus de maintenant un peu plus de 30 ans, mais ça veut dire qu'une seule génération est passée. Et puis en fait, le Liban, on le sait, est en crise depuis des années. On se souvient que Rafik Hariri avait été assassiné. L'emprise syrienne s'est relâchée, puis la Syrie elle-même a été aux prises avec cette terrible guerre civile. Mais ensuite, c'est des centaines de milliers, des millions de Syriens qui sont venus se réfugier au Liban. Donc, bien sûr, il faut digérer aussi ce genre de choc pour un pays. Et puis, maintenant, c'est cette attaque israélienne. Donc, on se demande même comment cette société libanaise, elle arrive à tenir. Et on sait que les institutions sont au plus mal, à part encore l'armée qui a l'air de tenir à peu près debout. Mais sinon, toutes les institutions libanaises sont dans une sorte d'état de coma dépassé. Et donc, il est urgent qu'il puisse y avoir une reconstruction politique de ce pays sous peine de risquer un effondrement possible. D'ailleurs, le Premier ministre libanais a dit pas plus tard qu'aujourd'hui que le Liban traversait une des crises les plus graves de son existence.
Au Liban, le choix de la solidarité pour ne pas céder aux divisions, c'est le titre du reportage qu'on a évoqué, qui sera donc à retrouver ce mardi dans La Croix et évidemment sur votre site internet. Merci Thomas Hoffnung.
Merci à vous.
Alors évidemment, ce sera l'une des grandes questions lors de la COP29 qui s'est ouverte ce lundi. Comment parvenir à s'affranchir des énergies fossiles? Car ces énergies fossiles continuent à être omniprésentes dans le monde. Aujourd'hui, illustration en Pologne, où plus de la moitié de l'énergie consommée dans le pays provient encore du charbon. La Pologne, premier producteur en Europe, 3,5 millions de tonnes extraites chaque année. Et un impact qui commence à se faire sentir sur la santé des habitants. Reportage d'Adrien Sarla.
À peine le temps de refermer les portes que l'ascenseur de la mine nous propulse 320 mètres sous terre. Aujourd'hui, la mine de Gwido, située dans la cité minière de Zabrze en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, a été reconvertie en musée. C'est ici, dès son extraction, que le charbon a fait ses premières victimes. Jerzy Hopka est aujourd'hui à la tête du syndicat des mineurs polonais. Dans la mine où il travaille, il a vu sa santé et celle de ses collègues se dégrader au fil de sa carrière.
Le travail à la mine, c'est un travail très difficile et il comporte de nombreux risques pour la vie des mineurs. Les principaux sont la silicose et la perte d'audition.
Mais les effets du charbon se font sentir au-delà des régions minières. Le pneumologue Tadeusz Jelonka, à Varsovie, est spécialiste des questions de pollution. Il alerte sur le danger de la concentration de particules de charbon dans l'air qui menace la santé de la population. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en Pologne. Le médecin regrette cependant que le problème reste ignoré par la grande majorité de la communauté médicale dans le pays.
Les connaissances sur les pollutions atmosphériques ne font pas partie de la formation des médecins. Donc ils passent à côté de l'information, ne sensibilisent pas leurs patients et la société n'a pas conscience du problème.
Le professeur salue néanmoins le travail des associations militantes comme Alarme Fumée. Depuis plusieurs années, elle attire l'attention des médias sur la nécessité d'une transition énergétique. Pour Piotr Shelgey, le porte-parole de l'association, le problème vient avant tout des chaudières à charbon individuelles. On en compte 2 millions dans le pays et elles brûlent chaque année deux fois plus de charbon que ce que produisent les mines polonaises.
Si c'est pour brûler du charbon d'Australie ou du Kazakhstan, ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il ne faut pas agir au niveau des mines, mais remplacer les chaudières à charbon, car elles sont trop nombreuses par rapport à nos capacités de production minière.
À elles seules, ces chaudières sont responsables de plus de 90% de la pollution atmosphérique totale dans le pays. Le gouvernement polonais s'est fixé pour objectif une sortie du charbon à l'horizon 2050.
Voilà, reportage d'Adrien Sarla à Varsovie. Et en écho à ce reportage, je vous incite à vous rendre sur notre site internet www.rfi.fr parce qu'évidemment, il est question de la COP29 qui s'est ouverte aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan. Et coup d'œil à la pendule, 19h28 ici à Paris. Dans un peu plus d'une minute, ce sera l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Elle sera présentée par Fabien Albert. Et à la une ce soir, l'île Maurice et le Premier ministre sortant qui reconnaît sa défaite. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. On revient dans un instant.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
30 km/h, 50 km/h ou plus, à quelle vitesse rouler dans les villes? Jusqu'où faut-il ralentir? L'abaissement des limitations de vitesse risque-t-il d'augmenter les embouteillages dans les centres urbains?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.